Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcult. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à polémique, les formes de duel dans le RP. Une fois les esprits échauffés, un peu calmés suite à ce débat, nous aborderons la création de la superstructure Evolution. Donc avec des explications des principaux participants. Ensuite, nous aurons droit à la rubrique du Père Varka, qui nous contera un petit point de l'histoire de World of Warcraft, ou pour les plus techniciens, du lore du jeu. Nous aurons bien sûr la rubrique ouverte, qui est bien fournie cette semaine. Vous aurez l'occasion de voir que de nombreuses actions sont en cours sur le serveur, ce qui est assez encourageant. Donc nous avons pour cet épisode avec nous Rizik. Bonjour Rizik.
Salut.
Nous avons donc avec nous également Siana, donc bonjour Siana.
Bonjour Erwan.
Nous avons également le lieutenant Varka, donc bonjour Varka.
Salut.
Et il y a moi-même, donc bonjour à moi-même, Erzan. Donc commençons par le débat sur les duels. Dans le RP, est-ce une bonne chose? Devons-nous faire les duels au round? Devons-nous faire les duels en duel, tout simplement, ou d'une autre manière? Donc, nous allons demander, qu'est-ce que le duel au round?
Alors round, ça vient de random, qui est aléatoire. Et l'idée, c'est d'introduire une part d'aléatoire dans un duel. Alors, il y a plusieurs possibilités. Le principal, c'est de savoir si on veut partir sur quelque chose de réaliste ou de complètement aléatoire. Donc, on se rapproche là du JDR papier. Dans l'idée, c'est que un protagoniste lance un dé, l'autre lance un autre dé, et puis en fonction de qui a le plus gros score, et ben, celui qui emporte l'action.
Le problème, c'est que c'est quand même un des types de duels au random qui est le plus polémique, à mes yeux.
Donc le duel au round, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une forme d'affrontement finalement un peu pacifique. On essaye chacun d'avoir un peu le dessus, mais de manière un peu plus douce que simplement se confronter à des stuff.
Selon moi, le duel au random, il y a un grave problème déjà, c'est déjà un duel qui est fait pour JDR papier, parce que lorsque tu attaques, eh ben en fonction du truc, tu enlèves X points de vie à une personne, tu vois. Or, le random dans le JDR sur WoW, c'est tu attaques, mais l'autre après, il dit oui, il m'a eu, non, il m'a pas eu, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que un level 1 peut alors parfaitement défaire au duel au random un level 90. Et c'est ça, c'est en cela pour moi que c'est très polémique le duel au random, parce que c'est finalement, je dirais, littéralement le duel du faible. Enfin, je dis ça, moi, je fais le duel PVP, je fais le duel au random, mais je considère que le duel le plus légitime, c'est le duel PVP. Le duel PVP que tu mets avec un peu du RP, c'est-à-dire tu frappes, puis après, tu n'utilises pas tout de suite tous tes coups, etc., histoire de faire un peu durer. Mais le duel au random, c'est clairement un problème là-dessus. Parce que, donc les level 1 peuvent battre les level 90. Bref, le duel au random, c'est simple, c'est un combat de dés, alors que le duel PVP, c'est un combat entre joueurs. Le problème, selon moi, c'est qu'il tient déjà que c'est un combat qui est totalement aléatoire. Selon moi, un personnage qui est level 90 aura toujours plus, éclatera toujours un level 1, on est d'accord là-dessus. Or, le level 1, lorsqu'il fait du roleplay, eh ben, il dira « Non, moi je peux pas me faire éclater comme ça du premier coup. » Donc ils font le duel au random, et si d'un coup le level 1 gagne, c'est quand même vachement la honte pour le level 90 qui, lui, je sais pas, il a participé au raid contre Arthas, il a combattu des milliers de membres de l'Alliance sur les champs de bataille. Voilà, selon moi, c'est un combat qui est très inégal dans le fond. C'est là où je pense que le duel PVP est le plus adapté. Sauf quand il y a un réel déséquilibre entre un gars qui est essentiellement avec une armure PvE et un gars qui est essentiellement en armure PvP.
La question qui peut se poser, c'est pourquoi duel au round, justement? Quel est l'intérêt de faire ça? Vous avez déjà un peu abordé cela sur l'intérêt ou non, justement, de le faire, mais plus précisément, qu'en pensez-vous? Pourquoi?
Alors, il y a plusieurs besoins, en fait, qui font que les joueurs recourent duel au round. C'est parce que il y a la tradition JDR papier qui fait que les gens aiment bien un peu ajouter un peu d'aléatoire dans ce jeu finalement qui est si technique, si mécanique et où finalement un chasseur contre un mage ou un décassant contre un démoniste, on peut déjà savoir l'issue par avance. C'est un peu rendre un peu d'aléatoire à ce jeu qui est finalement si carré, si plat, au bout d'un certain temps, au bout d'un moment où les joueurs ont déjà expérimenté, on sait déjà certains types de duels, comment ça va se finir avant qu'il ait déjà commencé, j'ai envie de dire, en fonction du staff des gens. Donc c'est un petit peu rendre cette part un peu de saveur qu'on a dans le JDR papier. Ensuite, il y a un autre aspect pourquoi les gens s'y attachent, c'est effectivement l'écart de niveau. Ça, c'est flagrant. Alors, est-ce que 90 joue le jeu? Moi, j'ai envie de dire, c'est à réserver à chacun. Après, il peut y avoir la baston de bar où on se fait une sorte de mini duel où finalement, il y en a un qui prend un coup dans la gueule, il y en a un qui lui balance sa chope à la tête. Ça peut être aussi un cadre sympathique. Et il y a le troisième aspect qui est ingérable par les mécaniques de jeu quasiment, c'est l'aspect de groupe. Là, c'est le problème délicat, c'est de savoir que, par exemple, on est 3 niveau 30 à faire la misère à 90. Le 90 va dire, ouais, moi je vous one-shot tous, c'est même pas la peine. Alors qu'en termes de jeu, c'est pas réaliste non plus. Il faut pas... C'est parce que le mec, il a battu Arthas ou qu'il a fait l'armée qu'il est invincible et qu'il peut rien lui arriver. Ça serait pas crédible.
Après, je pense aussi que tout cela tient aussi un petit peu au sens du jeu que le joueur donne au duel PVP. Et, enfin, au duel JDR. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as ceux qui savent le jouer, et puis tu as ceux qui ne savent pas le jouer. Je te donne un exemple, parce que, étant donné que je joue un roleplay qui est basé, enfin, since 4 ans, je fais essentiellement du roleplay méchant, j'ai eu des cas absolument fous, où le gars, il fait un duel random, il gagne, et fait alors une émote absolument géniale, où en fait, il tue en un coup mon personnage. J'ai eu droit à ce genre de choses, c'est assez exceptionnel. À côté, tu as celui qui joue pas le jeu, parce que même dans le duel PVP, il faut savoir être réaliste, tu vois. Il y a ceux d'un coup qui disent, ouais, mais vous êtes level 1, vous avez beau être 50, moi je m'en fous, j'y vais. Puis après, t'as ceux qui, mais non, ils respectent pas. C'est toujours une forme de débat, et selon moi, il faudrait, au niveau des serveurs, qu'il y ait littéralement des communautés, que la communauté des serveurs s'arrange pour définir quelle serait une forme de combat de base, et comment le jouer.
Je me permets de rebondir là-dessus parce que effectivement, il y a toujours dans la communauté rôliste cette volonté de vouloir clarifier, de mettre des règles pour éviter les conflits. Alors moi, je suis le premier à le dire, la nécessité de ce genre de choses, mais pour le combat, je suis très réservé parce que déjà au sein de ma propre guilde, j'ai déjà eu beaucoup d'écoles de joueurs qui viennent de serveurs différents et c'est quasi impossible de même au sein de ma propre guilde d'arriver à imposer des règles strictes et uniques parce que chacun a eu sa propre expérience, chacun a connu sa propre façon de jouer. Et je n'ai pas, quelque part, à mon côté, même chez moi, à régenter et leur dire « c'est bien comme ça, c'est mal comme ça ». Donc pour moi, j'ai toujours laissé une grande liberté aux joueurs là-dessus. Et je pense que c'est aux joueurs de s'arranger avant tout, plutôt que d'avoir un cadre commun, même si ça serait effectivement pratique. J'ai toujours peur un peu du côté fait à serveur fermé, où il faut agir selon les règles de la communauté, sinon on se fait ban, quoi.
Moi, je vois pas les choses ainsi, mais c'est vrai que, comme tu dis les choses, il y a un problème. Mais alors en fait... Ce qu'il faudrait, c'est là où il faudrait littéralement la présence de MJ. Mais le problème, c'est que ces MJ ne pourraient pas être partout. Donc moi, ce que je pense, c'est que il faut donc lier ça à l'interguild, parce qu'en général, quand tu fais un duel au random, c'est pas contre les membres de ta propre guild, parce que en général, t'as pas vraiment de problème entre les membres de ta propre guild. C'est plutôt avec ceux des gens ressortant d'une autre guild, cherchant visiblement le conflit. Donc je pense que le MJ idéal dans ce genre de cas, c'est le Guildmaster.
T'as jamais été dans des guildes un peu structurées ou un peu énormes, bah, des conflits dans une guild, j'en vois tous les jours et qui se règlent par les armes.
Bon, nous dans l'Union de Connussion, on a une méthode simple de résoudre le conflit. D'abord, c'est pas eux qui ont raison, c'est moi qui ai raison. Voilà, en JDR, c'est ainsi.
Bon, sinon, par rapport à tout ça, on parle de la nécessité d'un MJ. Effectivement, moi, je suis toujours favorable quand il y a un conflit, que ça soit un des officiers d'une des guildes qui prennent en charge le conflit quand il est sur place, afin de pouvoir structurer la chose, plutôt que, bon, les guildmasters, ils sont bien, mais j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas partout non plus. Moi, je sais que la plupart des problèmes, ça termine à 2h du matin quand je suis pas là. Donc l'idée c'est vraiment que les offres prennent en charge en général les problèmes quand ils sont sur place et puis aident à résoudre la situation et fassent preuve d'un peu de recul. C'est comme ça que moi je vois la chose.
Alors on a pas mal parlé du duel au round, mais on a peu parlé des autres formes de duel. Alors il y a bien sûr donc le duel de façon traditionnelle, donc en duel, mais personne n'a parlé du compromis, c'est-à-dire le duel au round avec une prise en compte des niveaux.
C'est ce type de combat que nous on fait dans Inokunyosu, mais j'ai renoncé à le répandre partout sur le serveur parce que, comme l'a dit Siana, c'est pas que ce n'est pas applicable. Tu ne peux pas imposer aux gens de faire un duel réaliste aux rounds et aux émotes.
Par rapport à ça, il y a une forme évolutive qui est assez intéressante. Une époque très très lointaine, j'étais membre d'un équipage pirate et il y avait une mutinerie. Pour s'affronter le poste du capitaine, de GM, je sais, ça c'est révolutionnaire, il y avait eu un duel qui était fait au sommet entre l'officier principal et le GM, le capitaine du bateau. Comment ça s'était déroulé? C'était assez sympathique, c'est-à-dire que il y avait donc chacun qui faisait un round de son côté, en fonction de s'il réussissait ou pas, l'autre faisait une succession d'enchaînements en jeu pour le mettre sur la gueule, et voilà, il y avait un certain nombre de manches qui étaient définies. Et du coup, à la fin, celui qui remportait plus de manches emportait le combat. Et c'est vrai que ça rendait vachement bien, d'un point de vue extérieur, ces enchaînements qui étaient déclenchés par rapport aux attaques. Il y avait un peu des modes derrière, etc. Ça peut être une forme hybride très sympathique, mais toujours difficile à faire bien jouer. Après, il y avait.
Oui, celui-ci-là, il tient vraiment, je dirais, à la capacité du joueur à être patient au niveau du duel. Je me rappelle d'un duel que j'avais fait avec un gars qui se nommait Durkan. Je crois qu'en plus il y avait eu des Selwabeloré, notamment Faelit, qui avaient assisté. C'était un combat qui était énorme. Il avait duré 10-15 minutes et on était les deux en train de s'entretuer dans l'arène. Et franchement, on s'était amusé comme des fous. Bon, à la fin, j'ai perdu, mais l'essentiel c'était qu'on s'était bien amusé.
Alors, par rapport à ça, il y a une méthode encore plus complexe, comme l'abordait Erzan, effectivement. Il y a, j'ai déjà assisté aussi, mais c'est vraiment pour les adeptes de JDR papier, j'ai envie de dire. En fonction, dans la guilde, on se définit des bonus pour un certain type d'interaction. Et à chaque fois qu'on intervient face à un autre joueur sur un round, en fonction de notre niveau, expérience, affinité, on a un bonus sur tel type d'interaction, et l'autre peut avoir un bonus ou un malus aussi. Donc du coup, les rounds étaient un petit peu, comme dans le JDR papier, un peu plus neutralisés par le fait que, en fonction du niveau, t'avais un type de bonus, si un écart de niveau, t'as un type de bonus, en fonction de ton affinité avec l'arme, t'as un type de bonus, etc. Donc du coup, c'était le système intermédiaire entre le niveau, le round, la mécanique de jeu, bon, à réserver, j'ai envie de dire, vraiment au release pur et dur.
Juste, je ne pense pas que c'est une élite qui peut se réserver le duel au round. J'ai plutôt l'impression que les joueurs qui veulent se battre entre eux, ils doivent juste rentrer en contact l'un avec l'autre et ne pas lancer unilatéralement le duel en disant bon bah on va faire comme ça. Le mieux c'est toujours de converser avec l'autre et de lui dire bon on fait quoi en round, un duel, et l'autre dit d'accord pour ça, voilà. Parce que comme ça c'est basé sur un accord tacite, et si tu perds, il n'y aura pas de oh ouais mais en fait on a fait au rando, moi je voulais faire un duel et voilà.
Alors je rejoins tout à fait Rizik là-dessus, c'est-à-dire que on peut pas imposer aux gens, et c'est une méthode qui peut être intéressante, mais après il faut que les joueurs se mettent d'accord. Aussi bien sur tu me retrouves devant la porte de la capitale et on va se péter la gueule, ou sur le random. Il faut que les gens se mettent d'accord, c'est indispensable pour qu'il y ait une bonne coopération. Sinon après on assiste encore à un énième drama et qu'il va falloir régler, etc.
Donc, le fameux je t'attends devant la capitale, ça c'est le truc où tu coinces le roleplay, parce que franchement les gens aussi doivent rester logiques, parce que lorsque tu lances un duel et que ton RP dit, en gros il clame partout que tu es le meilleur des combattants, il faut savoir rester logique. J'ai l'impression, tu vois, que lorsqu'on te dit ouais bon bah écoute on se retrouve dans la capitale parce que voilà j'ai beau être le meilleur des combattants, bah en fait tu peux pas t'éclater la gueule dedans. J'ai le sentiment quand même que il faut aussi que les gens, lorsqu'ils font de l'interaction, il faut aussi qu'ils se modèrent eux-mêmes.
Tout ne peut pas se régler par la force, j'ai envie de dire aussi. Il faut que les joueurs arrivent aussi parfois à mettre un peu d'eau dans leur vin. Moi, je vois beaucoup d'interactions conflictuelles. Dès qu'il y a un problème, viens, on règle nos comptes devant la porte. Quoi. C'est un peu, on va à la sortie de l'école, puis on va se régler nos comptes à la sortie de l'école. Quoi. C'est vraiment ce côté-là, un peu très factice, vraiment. Enfin, ça a vraiment un côté un peu gamin. Et là-dessus, je pense que les joueurs, faut aussi qu'ils prennent en compte l'interaction conflictuelle. Ça doit être la dernière des possibilités qui leur restent pour régler un problème en RP, parce que sinon, ça devient juste n'importe quoi. On va aller se régler nos comptes à la sortie de l'école et puis on va prendre un pain au chocolat, quoi.
Pour conclure ce débat, nous pouvons constater qu'il existe de nombreuses formes de duel. Round, de manière traditionnelle. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas la manière de duel mais la manière dont c'est abordé, c'est-à-dire qu'il faut que chacun s'accorde sur le type de duel, et surtout que chacun soit fair-play, car il faut toujours savoir perdre et savoir gagner avec modestie. Maintenant que ce débat est fini, nous allons passer au sujet de fond, qui s'appelle la superstructure évolution. Dans le précédent numéro de Podcult, nous avons évolué les systèmes de superstructure. Donc, une question importante s'impose, c'est qu'est-ce que la superstructure évolution ?
La superstructure, déjà, ce n'est pas le bon terme. L'idée n'est pas de construire une superstructure englobant toutes les guildes. Le projet évolution, parce que c'est un projet, est en fait un système de gérance de guildes un peu nouveau. C'est-à-dire mettre une vraie dimension roleplay à ce qu'est une guilde JDR. Le but à la base, celui qui a théorisé tout ça s'appelle Alberich, ou Caleb, dans le côté Horde. Bon, c'est un grand timide, donc il ne voulait pas participer au Podculte. Mais... l'idée même, c'était d'installer un système d'évolution dans les guildes roleplay. C'est-à-dire, il y a par exemple, chaque guilde a une spécialité, chaque guilde a une spécificité dans son roleplay, chaque guilde veut aller quelque part, et le but, c'est finalement de dire, on a un départ et on a un point d'arrivée. Le départ, c'est par exemple, on est faible, on n'a pas beaucoup de capacités, on a peu de gens, mais donc on va pouvoir aller s'allier avec d'autres personnes pour tenter d'arriver à nos fins. C'est ça un petit peu le projet évolution. C'est d'abord approfondir la gestion des guildes, rendre les gens plus ouverts finalement aux alliances avec les autres guildes et donc favoriser l'interguild.
Oui, voilà, c'est la question qui se pose, c'est pourquoi faire une telle superstructure ? Quel est son intérêt pour le serveur, pour le
projet ?
Oui.
Non.
Mais c'est vrai que superstructure, projet, ça peut être proche et éloigné à la fois.
Oui, très. Alors, pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait apporter au serveur ? Alors, déjà, je donne un exemple qui fait que le projet en soi est une bonne. Enfin, est un bon plan, je dirais, entre guillemets. C'est déjà ce qu'il a amené. Le fait, par exemple, que l'Union de Cognosus est une guilde qui est dépendante militairement de ses alliés, fait qu'on a énormément d'interactions à la recherche d'alliés potentiels militairement. Le but, dans le fond, c'est de faire en sorte que les guildes ne restent pas dans leur coin. Parce que le problème avec le roleplay, et ce qu'on voit sur les serveurs, lorsqu'il y a une guilde RP qui naît, elle a tendance à dire « Ouais, bon bah écoutez, on va faire notre petite RP nous-mêmes dans notre coin, on va s'installer, je sais pas, allez, on s'installe à Silithus et... » Voilà, les autres, on les ignore, on est très bien à faire notre sous-soupe chez nous, et voilà. Alors que, il faut des raisons, en général, pour qu'une guilde dise « Ouais, bon bah écoutez, on va faire une alliance. » Et le but d'évolution, c'est de donner ces raisons à ces guildes. Parce que j'ai souvent eu droit, lorsque j'ai fait quelques tours sur Karin Thor, sur les clairvoyants, etc. « Ouais, mais pourquoi vous ne venez pas ?»« Ouais, bah écoutez, en RP, ça ne va pas. » Et moi, j'ai toujours trouvé ça terrible, parce que dans le fond, en gros, juste parce qu'en RP ça va pas, bah tu viens pas. C'est tout. Donc le but d'évolution, c'est de surmonter cet argument de dire en RP, on ne peut pas venir parce que pour des raisons X ou Y.
Est-ce que ce système n'est peut-être pas un peu trop élitiste ? Parce que est-ce que ce n'est pas difficilement abordable par des gens qui débuteraient dans le RP justement ?
Alors je dirais que le truc, c'est qu'en effet, le projet évolution, c'est parti d'une forme de trip et donc il est assez complexe en soi. Mais le but, c'est pas d'être élitiste. Si on est élitiste, alors en fait le but même du projet évolution est mort, parce que le but c'est justement d'ouvrir le roleplay. Donc en fait le projet évolution, c'est en fait, ce n'est pas aux joueurs de le gérer, mais c'est aux guildmasters et aux officiers. C'est aux officiers de dire, bon on va faire un event là-dedans, parce que comme ça si on trouve quelqu'un dans ce sens-là, enfin si on trouve quelqu'un qui peut nous aider à obtenir un plus, eh ben ça va nous permettre donc de lancer un autre projet par la suite, etc. Le joueur, lui dans le fond... Ça doit juste lui permettre, le joueur en soi, il doit pas avoir grand chose à faire d'évolution. Sauf si d'un coup, alors, il rentre dans ce qu'on appelle le fameux truc du personnage illustre. Alors, le personnage illustre, qu'est-ce que c'est ? Ce serait en fait quelqu'un qui, que ce soit hors roleplay ou roleplay, s'implique énormément dans l'activité du serveur. Ça, c'est ma définition. Chaque guilde, après, a la sienne. Ce que je veux dire pas, c'est simplement. Un personnage illustre serait quelqu'un qui bufferait littéralement. La capacité d'une guilde, je sais pas, un scientifique qui boosterait les capacités en arcane d'une guilde, un général qui fait énormément d'events à caractère militaire, etc.
En clair, le personnage illustre est une sorte de maître du jeu, un créateur de quêtes qui, par sa prédominance entre guillemets hors RP, pourrait apporter un buff RP à la guilde, si j'ai bien
voilà, c'est un, c'est en fait ça, c'est littéralement un maître de jeu bénévole.
On est tous payés, c'est connu.
Arrête, j'ai pu lire qu'il y avait le chef d'une guilde PvE côté Horde, je ne sais plus lequel, qui reçoit des dons en fait de la part de ses membres, et donc qu'il est littéralement payé pour mener sa guilde. J'ai trouvé ça trop fou, j'ai décidé qu'il fallait que je mette ça dans la guilde, puis je me suis rappelé que la moyenne d'âge dans ma guilde est 16 ans, et donc ça marchera pas tout à fait.
Une question se pose également, c'est les réputations. Parce que, en clair, si, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce qu'on a pu me rapporter, il y aurait un système de réputation. C'est-à-dire, comme on va au marché de Mycoline, on apporte des déjeuners du brasseur à un Ginyu, on augmente sa réputation, on pourrait augmenter sa réputation auprès des guildes participant à ce projet.
Alors ça, c'est une autre part du projet Evolution. Pour le moment, le seul participant est Gnion Konyosu, parce que ça nécessite quand même une certaine... Ça nécessite une certaine intégration au niveau... Oui, alors je me rappelle qu'il y a longtemps vous avez fait ça, ça nous est resté, et donc cela pèse sur votre réputation auprès de nous. Donc oui, c'est un système où en fait tout le monde pourrait peser sur la réputation de son organisation ou de lui tout seul auprès d'une guilde. Si tu fais des... c'est en fait un système qui est collé et qui reprend un petit peu celui de Civilization 5, c'est-à-dire que lorsque vous causez un type, enfin un chef d'une autre nation, et ben le brave gars dit tu verras un moins 10 parce que en fait tu as vendu du pain à Michel qui est en fait son pire ennemi. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui permet en fait aux guildes de savoir quelle est leur position par rapport à d'autres guildes et donc d'organiser des events avec d'autres guildes qui sont aussi par exemple hostiles envers l'Union de Konyosu.
Une question, Mtarod. Combien de guildes participent à ce projet actuellement? Côté Horde, côté Alliance, est-ce qu'il y a des personnes motivées? Parce que je sais que l'Union de Konyosu y est, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes venu en parler, mais est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres guildes qui ont commencé à mettre en place ce système?
Alors je dirais qu'en fait, pour le moment, il y a des sympathisants qui se sont mis au système, au nombre de 7 à 8 guildes. Donc en fait, il y a des guildes qui participent, puis après tu as les guildes qui sont favorables, c'est-à-dire en gros, elles ont posté une fiche pour montrer que dans le fond, elles veulent bien interagir avec les guildes qui font partie du projet. Puis après, bon, tu as des guildes qui ne veulent pas, par exemple les mercenaires Atalai ou Zalcom a montré qu'il était assez hostile à cela. Mais c'est normal aussi, il a des raisons très légitimes. Donc pour le moment, je dirais que les guildes qui participent vraiment au projet Evolution, c'est le clan Foudreguerre, parce qu'ils sont passés de point à clan, j'ai appris. C'est aussi les Moires et l'Union de Konyosu. Donc pour le moment, on est trois guildes qui sont vraiment dans le trip Evolution. Et sinon, bah, le reste, c'est plutôt des sympathisants. C'est-à-dire, on est en tout 7 guildes quoi, dans l'idée.
Bien. Alors, vous avez pu entendre beaucoup d'informations sur ce projet Evolution, qui n'est pas une superstructure, attention, ne vous trompez pas. Donc, vous pourrez avoir plus de détails là-dessus sur les forums, je vous invite à aller les lire, parce que c'est un projet fort intéressant, qui a de l'avenir devant lui, et qui a besoin de vous. Maintenant, nous allons passer à la rubrique du Père Varka, Magneto Arcia.
Père Varka, raconte-nous une histoire, Père Varka.
Une histoire, ta gueule calligraphie, t'en auras des histoires au lieu de me... Bon, d'accord, mais une vite fait alors. Quand les titans apportèrent l'ordre sur Azeroth, ils tuèrent Charge, un dieu très ancien à cette tête. Mais dans son dernier souffle, Ischarge maudit Pandarie avec les chats, sombre aspect du dieu déchu. Pour une raison encore inconnue, les chats restèrent en hibernation pendant plusieurs milliers d'années. Mais il y a plus de 10 000 ans, Shaowao, le dernier empereur Pandaren, chercha à régner avec sagesse afin de sauver la Pandarie de la ruine. Dans le but de faire progresser son peuple, Shaowao entreprit une grande quête visant à le débarrasser de ses propres émotions négatives. Il y parvient et le doute, la colère et la peur qu'il avait extrait de son être furent emprisonnés sous terre. Mais ses émotions se renforcèrent et s'infusèrent dans la terre que Shaowao espérait protéger. Au cœur de la Pandarie, les ténèbres de l'empereur, les chats, attendaient, se nourrissant de la moindre parole dure, de chaque poing serré par la colère et de chaque pincement de désespoir. Les Pandarènes cultivent la compassion, la patience et l'amour de la vie, afin de limiter leur contribution à la puissance des chats. Mais avec l'arrivée d'étrangers violents en Pandarie, il est fort possible que tous leurs efforts soient réduits à néant. Et voilà.
Donc, nous passons maintenant à la redécouverte. Nous allons aborder divers sujets fort intéressants. Donc, nous allons commencer par Moire, M-O-I-R-E-S, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une guilde qui vient juste d'être créée.
Dans le fond, les Moires, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une guilde d'espionnage doublée par une forme de secte cherchant un idéal. Chaque personne rejoignant les Moires poursuit un idéal personnel. Et c'est en général des gens assez tordus. Par exemple, il y a Oseus, Cyranis, etc. Et ils suivent tous un petit peu Skadoué, qui est le grand Moire ou un truc comme ça. Les Moires, dans le fond, ce qu'ils cherchent, c'est vendre des secrets, enfin, c'est trouver, amasser les secrets et les utiliser contre leurs adversaires. Et à côté, c'est vénérer finalement un idéal commun qui veut changer le monde. Et c'est très novateur parce que on a vu ce projet que sur le culte d'Arrive Noire, parce que la communauté est quand même assez ouverte à ce genre de projet et tout le monde sait jouer un peu le jeu, ce qui n'est pas facile d'obtenir ailleurs.
Oui, à savoir que c'est une sorte de guilde secrète reconnue, mais aux membres inconnus. Donc n'oubliez pas que le tag sous le nom du personnage n'est pas visible sur la tête du personnage.
Et puis il y a des espions.
Oui, toujours. Actuellement, il y a également aussi deux events en cours. Un qui est sur la longueur, qui s'appelle l'offensive de Jade, et un autre qui est ponctuel, qui est tout récent, et qui a lieu ce mardi 27 novembre, à 21h à peu près, qui est le siège d'Astrana. Donc, pour parler de cette offensive de Jade, nous allons demander à Sienna de nous en dire un petit peu plus.
Bon, alors l'offensive de Jade, c'est un projet qui est sur la durée, qui concerne un certain nombre de guildes côté Horde, qui est une manière de relancer en RP un certain nombre d'offensives, de se positionner contre l'Alliance sur des terrains de bataille avec des conseils de guerre, etc. Du coup, ça mobilise un certain nombre de guildes, entre ceux qui viennent en assistant, ceux qui viennent en observateur, ceux qui viennent péter la gueule à tout le monde, etc. Donc, bon, dans l'idée, ça va être un projet qui va être dans la durée, qui va permettre de faire du PVP, du RP assez fréquemment.
Donc, venons de parler de l'offensive de Jade, mais j'ai cité également le siège d'Astranar, qui se déroule ce mardi 27 novembre, à 21h à peu près, et qui concerne pas mal de guildes. Vous avez peut-être dû voir une annonce sur le forum officiel et peut-être sur le forum de la communauté RP, mais je vais laisser Sienna vous en dire un peu plus là-dessus.
Alors, nous on connaît bien les protagonistes qui gèrent l'affaire parce que c'est une guilde qui nous était précédemment opposée en PVP. On avait eu probablement le meilleur moment RP-PVP, c'était avec eux, donc je pense que c'est un projet à encourager. Alors ils se sont lancés dans un truc un petit peu ambitieux cette fois-ci, où il y a à peu près toutes les grosses guildes PVP côté Alliance ou côté Horde qui vont y participer. Alors aujourd'hui, quand on enregistre ce podcast, ça n'a pas encore eu lieu, mais d'ici que vous ayez ce podcast, il aura probablement eu lieu et ça aura probablement pas mal bastonné, voire crashé le serveur. Donc j'espère que vous en aurez été et puis, que vous avez passé un bon moment là-bas.
Bien, après avoir parlé de siège, d'offensive, d'espions, d'autres activités plus épuisantes et dangereuses les unes que les autres, parlons boissons, parlons paris sur des combats, parlons beuverie, tout simplement, nourriture, etc. Avec une taverne qui vient d'ouvrir ses portes à la baie de l'Amepoint, tenue par un troll et un réprouvé, et dont Rizik pourra nous en dire plus.
Oui, la taverne a été ouverte par des membres de l'Union de Cognosu, soutenue par l'Union de Cognosu. Il s'agit de la taverne Fricterny. Fricterny, quel était le but en ouvrant cette taverne ? C'était finalement faire une taverne vraiment une gargote, quoi, tenue par des gens louches. Et finalement, là-dessus, c'est un petit peu le grand bordel. Il y a des combats clandestins, il y a des jeux de cartes avec des paris. Enfin, des paris, ça peut être de l'argent, ça peut ne pas être de l'argent. Bref. L'idée de Fricterny, c'était finalement ouvrir un endroit assez crade, dans une ambiance particulièrement mafieuse. Et j'espère que les retours sont plutôt bons, parce qu'on s'est vraiment, on se donne vraiment pour faire de cet endroit un endroit quand même chaleureux, malgré le fait que ce soit Malgré le fait que ce soit très louche et que vous pouvez très rapidement finir à la flotte si vous êtes un mauvais payeur ou au contraire si vous ne consommez pas. Bref, venez chez nous, on vous accueillera tous les jeudis à 21h.
Bien, pour conclure cet épisode numéro 2 de Podcult, déjà le numéro 2, c'est la fête. Toute l'équipe tient à vous remercier pour le soutien que vous avez fait, que vous avez montré pour le premier épisode et pour qu'on continue. Et merci aussi pour les commentaires sur les réglages à avoir. Nous avons essayé d'améliorer ça en espérant que le deuxième vous convienne. Ne manquons pas de remercier les sites communautaires et plateformes communautaires comme Jujipe, Warcraft People, WoWJDR et Mamutwink qui nous ont permis de diffuser Podcult et qui vous a permis de le découvrir. Nous recherchons toujours une personne qui serait intéressée par la tenue d'une rubrique PVP dans le Podcult. N'hésitez pas à nous contacter en jeu ou via les forums. N'hésitez pas également à passer sur le canal de la communauté RP qui est le slash RP du côté Horde, tout du moins, afin de vous manifester. Malheureusement, notre correspondant de l'Alliance était absent cette fois-ci. Mais il sera là la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, ami Allianceux, enfin ami, tant que vous ne me tapez pas. Donc, nous remercions donc nos différents participants de cet épisode, qui sont Sienna, Rizik, Varka, et notre technicienne Arcia, et aussi le public qu'on n'entend jamais, mais qui est toujours là. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la plupart des informations que nous avons abordées sur le blog ou sur les différents forums communautaires.
En tout cas, merci les gens de m'avoir invité sur Podcult. C'était très sympa et j'espère avoir été concis. Enfin non, laissez tomber ça.
Merci de nous avoir invités et puis c'était un grand plaisir d'intervenir et on espère que vous serez nombreux sur la diffusion et à l'écouter avec autant de plaisir qu'on a eu à le faire.
Pour conclure, salut les cultiens.
Elles te rendront exaltée, petit à petit déprimée, et tu vas manger du PVP. Et puis des quêtes de plus en plus dures.